Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Double vie.
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 Vous êtes déjà posé des questions sur vos proches? Et s'ils ne vous disaient pas tout? Il y a bien sûr les grands manipulateurs comme Jean-Claude Roman, cet homme qui a fait croire à toute sa famille qu'il était médecin pendant 18 ans. Mais autour de vous, qui cache quoi? Alors voilà, je ne veux pas semer le doute dans votre esprit, mais j'ai envie de vous demander, que savez-vous vraiment des gens que vous aimez? Vos amis, vos parents, votre compagne, votre mari? C'est ce que j'ai voulu explorer dans ce podcast. Parce que quand on parle de double vie, de vie cachée, on pense toujours aux adultères. Mais ce dont il s'agit en réalité, c'est de compartimenter son existence, de jongler avec les secrets et les normes. Et qui ne prend jamais cette liberté? Qui ne ment jamais? À l'OPS, on a même appelé ça la théorie de l'iceberg. Alors vous ne trouverez pas cette théorie sur Wikipédia, on l'a inventée un matin. L'idée est simple, nous sommes tous des icebergs, avec une partie visible et une partie secrète. Certains n'ont pas grand-chose à cacher, d'autres dissimulent des montagnes. Et ce sont ces montagnes-là qu'on veut vous raconter. Je suis Renée Grezard et dans cet épisode, je suis avec Charlie, une étudiante en biologie tout à fait ordinaire. Je la laisse se présenter parce qu'elle le fera mieux que moi et que j'aime sa façon de se raconter, sans aucun artifice.
Je suis une étudiante normale en soi, une fille normale, une sœur normale, une copine normale... Enfin, y a rien de vraiment spécial chez moi. Tout est vraiment très simple. J'ai jamais cherché à me démarquer vraiment des autres. Je suis juste une personne comme on peut croiser dans la rue et qu'on va pas se rappeler, quoi.
Les journées de Charlie sont donc des plus ordinaires. Cours à la fac le matin, la même chose l'après-midi, quelques rencontres à la cafette. Mais là, vous vous demandez peut-être à quoi ressemble Charlie.
Je mesure 1m55, donc assez petite. Je pèse 70 kilos. Je dirais que j'ai une corpulence normale, je suis assez carrée quand même. J'ai les cheveux mi-longs, châtains, des lunettes, des yeux bleus.
À ce stade, je ne sais pas ce que vous imaginez de la double vie de Charlie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est de son père qu'elle se cache le plus. Entre eux, il y a comme un choc des cultures.
Mon père est très rétrograde en fait. Donc avec ses idées un petit peu la femme pure, machin, quand une fille sort trop, c'est tout de suite une pute, ou même aussi des remarques homophobes sur les hommes en général. Quand je lui ai fait mon coming out bisexuel, il m'a dit « ça me dérange pas tant que c'est des filles ». J'ai trouvé ça vraiment très limite. Pour mon père, une femme pure, il l'a jamais définie vraiment précisément, mais ce serait plus une femme qui se préserve, pas trop vulgaire, à pas trop sortir avec des garçons, qui a pas trop de mecs, quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Donc si je vais reprendre ces mots un petit peu, donc ça va être très cru, mais si t'es une fille qui va coucher à droite ailleurs, pour lui c'est comme si t'allais te faire tourner dans une cave et du coup t'es pas respectable, quoi. Donc quand t'es en pleine construction de toi et de ta sexualité et de ton rapport... aux autres, c'est des phrases qui peuvent marquer quand même pas mal. Mes parents n'ont pas fait d'études. Ils se sont arrêtés tous les deux quand ils avaient 15 ans. Ma sœur n'a pas fait de grandes études. On vient d'une famille de prolos où personne n'a fait d'études. Hein. Pendant pas mal de temps, j'ai toujours voulu lui rendre fière parce que ils me prenaient un petit peu comme l'enfant prodige qui va faire des études, des grandes études. J'avais l'impression d'avoir cette pression de devoir... le rendre fier, en fait.
Une fois ce paysage posé, j'ai demandé à Charlie quelle était la partie immergée de son iceberg. Enfin, ce qu'elle cache, quoi.
La partie immergée de ma vie, c'est que j'ai fait escorte et que maintenant, je suis camgirl. Donc, je fais du travail du sexe. Et mon père n'est pas au courant. Donc au début, je faisais uniquement de l'escorting. Donc c'est que j'allais voir les gens et que je proposais des rapports sexuels en général. Y avait aussi des jeux de rôle. Et ensuite, je me suis plus tournée vers la domination suite à un client qui m'a un petit peu initiée à ça. Je l'étais déjà plus ou moins, mais c'est vraiment là que j'ai commencé à le faire pour autre chose que juste en privé avec mon copain.
Si Charlie me fascine autant, c'est aussi que quand j'étais étudiante, l'idée de me prostituer m'a déjà traversé l'esprit. J'étais en double cursus, lettres et cinéma, et je travaillais en plus, à côté, pour financer mes études. J'ai tout fait, ou presque. McDo, magasin de lingerie, librairie et même veilleuse de nuit dans une maison de retraite. Tout cumulé, j'étais à 70 heures par semaine. Parfois, du coup, il m'est arrivé de me dire que ce serait peut-être plus simple de me prostituer. Pour autant, je ne l'ai jamais fait. Du coup, je me demande, comment on devient escorte quand on est étudiante ?
Quand j'arrive en septembre 2018 à Nantes, donc je suis un peu toute seule dans une nouvelle ville comme beaucoup d'étudiants en ce moment pendant leur rentrée. Et donc, dans un nouvel appart, une ville que je connais pas, une fac où je connais personne. Et faut savoir que je suis un petit peu traumatisée. J'ai vécu des choses pas ouf pendant mon adolescence. Donc, j'ai été violée par mon premier copain, donc pour ma première fois. Et ensuite, donc pendant 2 ans, ça a duré. Donc il était majeur, 23 ans, j'en avais 15. Il m'avait proposé de faire un tour de voiture. Et en fait, il m'a dépucelé ouais, dans un champ. J'avais pas forcément envie, mais j'étais sidérée en fait. J'ai fait une sidération, j'ai pas bougé en fait, et je l'ai laissé faire. Et c'était assez compliqué. Je sais qu'il avait même pas de capote. Enfin, il avait une capote et il l'a retirée sans que je sache. C'était ma première fois, ouais, et ensuite, en fait, il y a eu un espèce de blocage dans ma tête, c'était vraiment très bizarre. Dans le sens où j'avais l'impression que c'était trop tard et que je lui appartenais, en fait. Super bizarre. On avait des relations consentantes aussi, hein, mais souvent, c'était vraiment la même chose. Tout le temps, soit je dormais, soit j'avais pas forcément envie, mais il était un peu plus lourd que moi, du coup, bon... Oui, il m'a violé tout, absolument tout. Il m'a fait croire que si je partais, il allait se tuer. Parfois, un grand gaillard de 23, 24 ans, hein, qui se traîne à genoux devant toi en pleurant pour te dire que si tu le quittes, il va se foutre en l'air et qu'il pourra jamais s'en remettre. C'est compliqué, quoi. Donc, j'ai été suivie, j'ai eu des suivis psychologiques et tout ça. Mais quand j'arrive à Nantes, mon dossier qui était censé être transféré est perdu. Donc j'ai pas de continuité de suivi. Et du coup, même en essayant d'aller mieux, tous mes proches pensent que je vais mieux. Et en fait, je me retrouve en fait éteinte. Et un beau jour, une journée super jolie, je me dis que c'est le beau moment pour essayer de me tuer. Quand je me suis réveillée dans la chambre d'hôpital, il y avait une fille à côté de moi. Et elle s'est présentée comme ça, cash. Donc moi, j'étais dans les vapes. Hein. Mais je me suis présentée aussi, on a parlé. Après, elle m'a payé une clope et on a continué à parler. J'ai appris qu'elle était escorte, en fait. Et moi, ça m'avait intriguée un petit peu, sur le moment. On a gardé contact, elle m'avait filé son numéro de téléphone. Et on est allé boire une bière ensuite. Donc elle m'a dit, je t'apprendrai jamais à être escorte parce que je pense que t'es trop faible pour ce métier. Donc ça m'interpelle un petit peu, cette phrase. Je me dis, c'est quoi trop faible ? C'est... Parce que techniquement, elle a essayé de se suicider aussi. Une semaine après, je dirais, donc après mûre réflexion, avoir cogité un petit peu, je me dis, en vrai, j'aimerais bien essayer quand même. Quitte à voir, même si ça me plaît pas, j'arrête.
Avant de se lancer, Charlie a d'abord voulu tester l'idée auprès de son nouveau copain. Parce que c'est pas tous les jours qu'on annonce à son mec qu'on veut se prostituer, non ? Du coup, une après-midi, elle est partie se balader avec lui, et puis, délicatement, elle a abordé le sujet, en général, sans parler d'elle. Forcément, elle craignait un peu sa réaction. Mais l'amoureux en question s'est révélé très ouvert.
Il me dit, en vrai, les travailleurs du sexe, tant qu'il y a de l'argent à se faire sur un truc, c'est un business. Hein. C'est rien d'autre. Et si elle souhaite se faire de l'argent sur un business, sur le business sexuel, moi ça me pose aucun problème, justement, let's go girl, tu vois. Et du coup, bah, je me dis sympa, ok, je garde ça en tête, et quand on rentre, je lui dis, bah j'aimerais être escorte. Donc j'ai déjà trouvé un site où poster une annonce. Donc c'est un site un peu miteux, mal codé, mais bon, ça fait le taf. Donc là où on met notre numéro de téléphone, une annonce, et les personnes, les clients en fait nous appellent ou nous envoient un SMS. Et il dit ok, donc il me donne juste quelques conditions. Je veux toujours savoir où t'es, donc un maximum d'informations sur le mec que tu vas voir. Et un code, donc on invente un code pour savoir si ça va ou si ça va pas. Alors, est-ce qu'il appelle la police ou est-ce qu'il vient s'il est à Nantes ou des choses comme ça. Si ça va pas, on dit carotte, donc comme les carottes sont cuites. Et si ça va, on dit patate. Ça fait liste de courses, quoi.
Charlie n'a jamais eu besoin d'utiliser ce code secret avec son copain. Une fois, un client a bien essayé de la pénétrer sans préservatif. Une autre fois, un homme a voulu la sodomiser sans payer. Mais à chaque coup, elle a réussi à gérer la situation. Sinon, tout s'est toujours bien passé, même avec le tout premier client.
Quand j'arrive chez mon premier client, j'ai un petit peu d'appréhension parce que vu que c'est mon tout premier, j'ai peur qu'il capte que je suis vraiment novice. Et en fait, ça se passe très bien. Donc je vais le voir, je vais à son adresse qu'il me donne et je monte à son appartement. Il est en peignoir, donc ça me dérange pas plus que ça, je me dis de toute façon, on va finir à poil. Et il me sert un verre, donc je suis assez méfiante au début. Hein. Je le regarde vraiment verser dedans pour bien être sûre qu'il met pas une cochonnerie du GHB ou quelque chose comme ça. Donc tout en envoyant des petits messages à mon copain pour lui dire que tout va bien. Donc ça commence comme ça. On est côte à côte sur le canapé et on parle de nos vies. Donc il me raconte un peu sa vie. Faut savoir que c'est pas des gens en misère sexuelle, hein, c'est juste des gens qui... Ça n'existe pas, la misère sexuelle. C'est juste des gens qui ont envie d'affection, qui ont la flemme de draguer, et du coup, bah, ils appellent des escortes. Au début, quand on est sur le canapé, c'est vraiment lui qui vient vers moi, mais ça se fait assez naturellement. Bon, j'ai pas vraiment envie de lui, il a 55 ans, hein, mais ça va. Donc on s'embrasse... Ça se fait assez naturellement. Enfin, quand je vois qu'il commence à s'approcher de moi, je m'approche de lui parce que je comprends qu'il veut m'embrasser, quoi. Et vu que je suis là pour ça, je m'approche pour l'embrasser. On finit dans le lit et il y a rien de spécial dans la première relation sexuelle que j'ai eue avec un client. C'était vraiment missionnaire. Après cette première prestation, je me sens assez bizarre. Je me sens pas sale. Je me sens pas fière. Il y a quand même un brin de fierté d'avoir sauté le pas, quand même. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'assez badass, d'un peu interdit en fait. C'est curieux de se dire qu'un rapport sexuel dont t'as pas envie, mais que tu consens, ça te permet de te réapproprier ton corps à partir du moment où tes tout premiers rapports sexuels, c'était des rapports sexuels non seulement dont t'avais pas envie, mais en plus que tu ne consentais pas. Donc là, je consens, c'est mûrement réfléchi, je le sais avant, et je le fais de manière complètement en accord avec moi-même et mon corps, et ça change. Là, j'ai voulu avoir le choix et essayer de faire ce que j'avais envie. Et pourquoi pas de la thune ? Ça m'aide à me réparer parce que le choix. Si j'ai plus envie de le faire, j'arrête de le faire. Il y a pas mal de moments où j'ai fait une petite pause. J'ai le choix. Ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à concevoir avant. Avant, j'avais l'impression que je me devais d'être disponible. Et maintenant, je sais que c'est pas le cas, grâce à ça. Parce que j'ai le choix de supprimer mon annonce, par exemple. Avoir le choix dans une relation tarifée, ça m'a permis d'apprendre à dire non dans une relation intime avec un homme. Et du coup, maintenant, le fait d'avoir des relations avec consentement, que c'est moi qui décide, eh ben ça change complètement la donne. Il n'y a pas ce rapport de domination. Et encore, en fait, techniquement, pour moi, c'est moi qui domine dans ces relations tarifées. Parce que c'est moi qui décide du tarif, c'est moi qui décide de la prestation, c'est moi qui décide de tout, c'est moi qui décide si j'y vais ou pas, si je le bloque, quoi que ce soit.
Il y a une forme de résilience dans ce que raconte Charlie, et de retournement de stigmate aussi. Comme si elle avait cherché à traiter le mal par le mal. C'est d'autant plus troublant qu'elle ne s'est pas arrêtée là.
Un jour, il y a un mec qui m'appelle, et qui est assez intéressé, qui me demande si je fais de la domination. Donc j'en ai jamais fait avec un client, mais je lui dis que oui. Donc j'arrive chez lui, je suis habillée très simplement, mais en dessous j'ai tout mon attirail de BDSM avec mes porte-jartelles lanières et tout ça. Un body très très BDSM avec des clous et tout. J'ai une bonne tenue en dessous, mais à l'extérieur on remarque juste que je suis une gamine en jean, quoi. Et donc j'arrive, il a pas l'air étonné ni rien, il a l'air normal. On s'assoit sur le canapé, il me propose des clopes, du vin, que moi j'accepte volontiers. Et on commence à parler de ce qu'il veut, ce qu'il attend de ce rendez-vous. Et il me sort une feuille avec une liste de choses à faire dans l'ordre, parce qu'il adore ça. Je dois lui faire une clé de bras, ou me mettre à cheval sur son dos et lui pincer les testicules. Donc c'est des trucs assez spéciaux que j'ai jamais vraiment fait auparavant, même avec mon copain avec qui je faisais du BDSM soft. Donc je suis un peu surprise, mais je me dis, bon, c'est rien qui me dérange. Donc pourquoi pas. Donc on va dans la chambre, et il se met à quatre pattes. Genre vraiment, j'étais pas prête. Il se met à quatre pattes, et du coup je me mets en sous-vêtement, et je monte sur son dos. Donc c'est un mec très grand, très baraqué, il fait à peu près 2 mètres, 2 mètres de large, bon, j'abuse, mais il est très baraque. Je monte sur son dos, limite je touche plus le sol, et je lui fais une clé de bras. Donc il devient violet à moitié, il adore ça. Et ça me surprend un petit peu, mais je suis bon, drôle de domination. Et je lui pince les testicules, et à un moment je me prends au jeu. Au début je suis un peu... je suis maladroite, mais je me prends au jeu. Et donc je commence à l'insulter. Je lui dis que c'est une cochonne. Et à un moment, quand il est sur le dos, et je suis debout sur son cou, donc je l'étrangle avec mes pieds, mais je suis vraiment debout sur lui, je lui mets des petits coups de pied, et je lui dis que c'est mon paillasson. Et depuis, en fait, il a gardé ce surnom de paillasson. Quand j'en parle avec des gens qui sont au courant, je dis paillasson, et ils comprennent qui c'est. C'est assez rigolo. Et donc, je l'humilie pendant une heure. Je dépasse volontiers avec lui quand je vais le voir, en général. Je me prends beaucoup au jeu, j'aime bien. Pour moi, c'est un jeu. Pour moi, c'est pas forcément sexuel. Je prends pas vraiment de plaisir physique, puisque, en général, il ne me touche pas. C'est moi qui le touche. Ce que j'aime... C'est le jeu du pouvoir, en fait. C'est moi qui ai le pouvoir, et je suis en train d'humilier un mec qui fait 2 fois ma taille. Et je trouve ça vraiment rigolo. Tu joues la comédie, en vrai, quand t'es une travailleuse du sexe. C'est pas du vrai sexe, entre guillemets. Ça l'est, mais c'est une comédie. C'est vraiment... c'est un jeu drôle. J'ai eu pas mal de rendez-vous avec paillasson. Donc je chiffrais à une dizaine. C'est toujours génial à chaque fois que j'y vais, hein, de toute façon. Il aime bien. Et moi j'aime bien aussi. Et du coup, là on arrive à peu près vers janvier 2020.
Là, Charlie m'a raconté comment le confinement avait bouleversé son activité. Elle a cessé ses rendez-vous, et comme beaucoup de travailleuses du sexe, elle s'est inscrite sur des sites de vidéos pour être camgirl. Et puis, elle a encore essayé autre chose. Accrochez votre ceinture, Charlie est toujours pleine de surprises.
Maintenant, je vends des culottes sales, donc j'ai commencé à peu près cet été. Donc j'ai des clients réguliers. J'ai un Belge qui m'a acheté facilement pour 300 euros de sous-vêtements, qui continue à m'en acheter. Donc on poste une annonce avec des photos de la culotte. Les clients que j'ai, souvent, ils demandent quasiment uniquement des culottes. Je refuse souvent les demandes un peu plus hard. Si ça dépasse 3 jours, je tique un peu. J'aime pas trop porter une culotte plus de 3 à 4 jours. Je trouve ça vraiment pas hygiénique. Du coup, en général, je refuse. Donc, s'ils veulent plus de jours, tu rajoutes un supplément. Donc, s'ils veulent aussi d'autres choses, il y a des filles qui mettent de l'urine ou des excréments. Il y a des noms un peu poétiques. Hein. L'urine, c'est du champagne, et les excréments, c'est du caviar. Bon, personnellement, je trouve ça dégueu. Du coup, je le fais pas, mais bon. Mais j'ai l'avantage d'avoir des pertes blanches assez abondantes, et c'est une catégorie dans la vente de culottes sales, et du coup je peux moduler un petit peu mon prix en fonction de ça. Et il y a pas mal de catégories. Hein. Il y a des catégories femmes enceintes, catégories règles, catégories selon la couleur de peau aussi. Vraiment tout et n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de caleçons. J'ai pas vu de vendeur homme. Mais je pense que ça se vend.
Voilà, vous savez maintenant tout de la vie cachée de Charlie, jusque dans ses détails les plus intimes. Et si on y réfléchit, ce qui est assez fou, c'est que vous en savez désormais plus que certaines personnes de son entourage. J'imagine du coup que vous vous demandez maintenant comment elle organise cette vie secrète. Qui ne sait rien? Qui sait un peu? Qui sait tout? Et son copain, lui, comment il vit cette situation?
Quand je rentrais, je lui racontais ce qui s'était passé. Parfois, on se moquait un peu de nos clients, mais tout en respectant leur kink, pas de kink shaming, tout ça, c'est la règle. Mais du coup, on se moquait quand même un petit peu des clients parfois que j'allais voir. Parfois, ils étaient un peu bruyants, ou ils faisaient des bruits bizarres, ou alors ils tenaient vraiment pas longtemps. Du coup, on se moquait un petit peu. Et on a un rapport assez léger avec ce que je fais, en fait. Notre relation à nous deux, elle a jamais été impactée par le fait que je fasse du travail du sexe. Au contraire, ou alors si elle a été impactée, c'est de façon améliorative. Dans le sens où elle m'a permis de m'accepter moi-même, et du coup ensuite, vis-à-vis de lui, j'avais un meilleur rapport aussi. Donc dans les personnes qui sont au courant, il y a mon copain, qui est au courant depuis le début. Puis il y a ma mère qui l'a deviné... En fait, un jour, on est en voiture, j'imagine qu'on va au magasin ou je sais pas quoi. Et je lui dis que je fais du babysitting pour gagner un petit peu d'argent de poche. Et en fait, d'un coup, elle me sort « J'espère que tu fais pas des choses dont t'as pas envie. » Et je commence à deviner de quoi elle parle et je suis genre « Non, non. » On continue un petit peu la route et en fait, je lui dis « Je fais de l'escorting, mais je suis complètement consentante avec ce que je fais, je suis ma propre patronne. » Et en fait, au début, elle est un petit peu... choquée, perplexe. Et elle me dit, tant que personne te fait de mal et que tu fais très attention, tu fais ce que tu veux. Donc, la discussion s'arrête là. Je lui raconte 2-3 anecdotes un peu marrantes sur mes clients et elle rigole nerveusement, mais ça va, quoi. Je dédramatise un petit peu pour éviter qu'elle se sente mal à l'aise. Ou qu'elle pense que je fais ça par besoin, parce que ça, ce serait horrible pour elle, je pense. Mon père, ça me dérangerait énormément, vu qu'il a des idées un peu rétrogrades sur les choix des femmes et que pour lui, bon, une pute, c'est pas respectable. Tout le mal qu'il s'est donné, entre guillemets, pour qu'on fasse les bons choix, je pense que s'il sait que je fais du travail du sexe, il aurait tendance, je pense, à être déçu de mes choix et à penser qu'il a tout raté. Le fait qu'il y ait certaines personnes dans ma vie privée qui ne soient pas au courant de cette partie de ma vie, donc mon travail du sexe, ça me pose problème dans le sens où j'ai l'impression de ne pas pouvoir être complètement moi-même.
Du coup, à l'université, la majorité des camarades de Charlie ne sont pas au courant non plus. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Et même peut-être que ça l'amuse un peu. Comme ce jour où elle est venue avec ses petites affaires à la fac.
Donc je vais en cours avec mon sac de cours, mais avec un autre sac à côté où il y a tout mon matos. Donc je vais en basket, mais dans mon sac, il y a des talons aiguilles de 12 cm rouges vernis, des godes, une gag ball et des choses qu'il faut pas ramener à la fac, quoi. Alors, en fait, j'arrive à la fac et tout, je croise une pote qui est à peu près au courant. Et en fait, je lui montre un peu ce que j'ai dedans parce que je trouve ça rigolo, quoi. Et en fait, je me pose pas la question de s'il y a des gens qui arrivent, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça, quoi. Genre, je fais attention, mais parfois, j'ai des moves comme ça où je fais pas vraiment attention. Donc, il y a ces moments où je joue un petit peu avec ma vie publique, entre guillemets, et ma vie d'escorte, et où j'entrechoque un petit peu les deux parce que j'aime bien le risque. Mais en vrai, ça peut très mal tourner. Par exemple, si je croise une personne, alors une fille qui gossipe un peu à la fac, ou mes beaux-parents, ou mon père, des fois, ça s'entrechoque un petit peu, quoi. Ça m'est jamais arrivé que ce soit vraiment dangereux, ou que ça pose problème. J'ai un petit peu d'excitation dans le fait de garder ce secret, parce que je sais pas trop comment l'expliquer. C'est une espèce de chose... où c'est vraiment moi et où j'ai vraiment pas besoin de me justifier. Parce que de toute façon, il y a que moi qui le sais. Que moi ou les gens qui l'accepte complètement. Il y a cette espèce de liberté de pouvoir faire ce que je veux à partir du moment où personne n'est au courant, et donc personne peut me dire si c'est bien ou mal, quoi. Personne peut donner son avis, vu qu'ils savent pas. C'est plus simple pour moi. Je me sens beaucoup plus libre dans le secret.
Pour finir, j'ai demandé à Charlie ce que je demanderais à chaque personne invitée dans ce podcast. À quoi ressemblerait le monde qui lui permettrait de réunir ces deux parties d'iceberg ?
Ce serait un monde où la vision de la femme dans la société n'est pas centrée uniquement sur la pureté et le respect d'elle-même. On dit toujours un homme qui fait beaucoup l'amour, c'est un winner, et une femme qui fait beaucoup l'amour, c'est une pute. Bah, un monde où les deux seraient égales, ça voudrait dire que bah déjà une femme travailleuse du sexe ne profite pas de la misère sexuelle des hommes, puisque il y aurait pas de misère sexuelle des hommes, parce qu'il y aurait pas de différence de oui, mais tu comprends pas, nous on a des hormones. On a des hormones aussi. Ce monde-là, j'aimerais bien qu'il arrive un jour. Un monde où mon père ne me considérerait pas comme un être qui doit se respecter, parce que sinon il aura une mauvaise réputation. Car justement, il n'y aurait pas de mauvaise réputation parce qu'une femme couche.
Voilà, la théorie de l'iceberg, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, si vous avez de la glace cachée quelque part, écrivez-moi sur Twitter ou sur Instagram. On verra si on peut faire fondre tout ça ensemble.
Cet épisode a été monté par Mao Landaz, réalisé par Julien Bouisset, la musique est de Jocelyn Borda, et la direction éditoriale était assurée par Mathieu Aron.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.